Interview.
L'interview du jour.
Alors bonjour à toutes et à tous, nous sommes bien sur RDWA 107.5 FM, www.rdwa.fr. Donc nous accueillons aujourd'hui au sein de nos studios 4 personnes, donc je vais vous laisser vous présenter ainsi que vos structures.
Oui, bonjour, donc Aurélie Charras en fait. Je suis actuellement en stage au Conseil local de développement durable et sur la question de la mobilité. Voilà, la mobilité, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment d'actualité. On a encore vu avec le manque d'essence et tout ça, les questions que ça a pu poser. Donc voilà, pour la promotion d'une mobilité douce. Et donc à cette occasion, donc c'est la fête du vélo ce week-end et à cette occasion, on a des invités. Je laisse la parole.
Bonjour à toutes et bonjour à tous sur Radio Diwa. Je suis Florence Padier. Comme l'a précisé Aurélie, ce week-end, de partout en France, c'est la fête du vélo. Et à cette occasion, ça permet de rappeler que le vélo, c'est certes un sport, un divertissement, mais c'est aussi un moyen de déplacement pour tous et toutes dans les villes et dans les territoires un peu moins urbains.
Bonjour, je suis Françoise Mar, je suis une des 3 présidentes du Conseil local de développement du Diwa, le CLDD. Je m'occupe plus des mobilités et puis je fais du vélo en vacances pendant des semaines en itinérance depuis longtemps. Et je suis ravie d'accueillir Florence et
Frédéric
Rollet,
Frédéric Rollet. Donc, bonjour.
Qui nous viennent de Lyon tout exprès, puisque cette année, comme l'an dernier, on souhaite, à travers cette manifestation locale et nationale, faire tout pour développer l'usage du vélo dans le Diwa.
Bonjour, donc je suis Frédéric Rollet, je travaille au développement du vélo depuis une 20aine d'années. Aujourd'hui, je suis président d'une association qui s'appelle Vélo Chemin de Traverse, qui fait plutôt du conseil. Et mon parcours est plutôt avec deux versants, à la fois les vélos de voie verte, le vélo tourisme et loisirs, qui s'est fortement développé depuis une 20aine d'années, qu'on a vu se développer aussi dans la Drôme, le long de la vallée du Rhône par exemple, ou de l'Isère, un peu moins dans la vallée de la Drôme, mais on y reviendra sans doute. Et puis un autre versant qui est celui du vélo urbain, avec l'invention de toute une palette de services, un vélo urbain qui se développe effectivement dans les grandes villes, mais on est là aussi pour dire que ça peut se développer aussi dans les zones plus rurales, que les obstacles qu'on imagine ne sont pas si importants, ils ne sont pas aussi hauts que les cols qui entourent Die.
C'est sûr. Donc au final, c'est un peu aussi pour montrer, si je puis dire, que le vélo n'est pas que pour se balader, pour partir en vacances, mais aussi quelque chose qu'on peut utiliser tous les jours pour aller au travail ou autre.
Ah oui, complètement. Alors effectivement, on le voit dans d'autres pays, c'est vraiment un vrai mode de déplacement. Bon, évidemment, tout le monde a l'image des Pays-Bas ou de certaines villes allemandes, où effectivement les parts modales pour aller par exemple au travail, hein, ou à l'école, ou au lycée, à la fac, faire ses courses, donc du vélo utilitaire, les parts modales, ce qu'on appelle, c'est le nombre de déplacements qui est effectué par tel type, tel mode de déplacement. Les parts modales aux Pays-Bas atteignent 40-50% dans certaines villes pour le vélo. Du coup, on imagine, nous, en ayant vu ça dans d'autres pays qu'en France, sans forcément atteindre ces taux-là et ces parts modales, on peut tout à fait imaginer que dans d'autres secteurs, on ait des parts modales intéressantes. On le voit déjà dans certaines villes françaises et il n'y a aucune raison pour que sur des zones plus rurales, on n'ait pas aussi que le vélo soit pas aussi un outil de déplacement utilitaire du quotidien.
Et justement, vous êtes arrivé aujourd'hui. Florence et toi, Frédéric, vous avez eu l'occasion de vous promener en ville, vous connaissez déjà bien Die, vous connaissez bien la vallée, du reste. Alors, des changements depuis la dernière fois que vous étiez venue ?
Justement, pour le coup, en tant que Lyonnais et Lyonnaise, nous sommes venus en transport en commun jusqu'à Die. Nous avons pris le train donc de Lyon jusqu'à Die, avec une petite alternance de bus entre Valence et Die. Et à l'arrivée, donc nous avons pu nous promener dans le centre-bourg. Et ce qu'on peut dire, c'est que pour une ville de la taille de Die, donc 4500 habitants, si je ne me trompe pas, la ville est quand même dotée d'infrastructures cyclables assez étonnante pour une petite ville. On a pu observer ce qui est communément nommé par les urbanistes comme une zone de rencontre. Et on a pu observer également quelques doubles sens cyclables. Donc les doubles sens cyclables, on le rappellera, ce sont des infrastructures qu'on trouve dans les zones à 30 km/h ou dans les zones de rencontre qui permettent aux cyclistes d'arriver dans les deux sens et notamment en face des automobilistes. Voilà. Du coup, c'est assez intéressant d'observer ça sur 10.
Inversement, on a aussi focalisé sur le stationnement, enfin plutôt le manque de stationnement des vélos. On a vu beaucoup de vélos justement pas stationnés, c'est-à-dire posés contre un mur, posés contre un poteau, pas forcément attachés d'ailleurs. On imagine qu'il y a peu de problèmes de vol, contrairement à une grande ville peut-être. Mais en attendant, les quelques stationnements vélos sont des pinces rousses qu'on appelle, et ce qui est, on va dire, l'exemple type de ce qu'il ne faut pas installer. C'est effectivement pas cher pour les collectivités, c'est vrai. Il y a deux scellements, donc ça va très vite à poser. Mais en fait, globalement, ça satisfait assez peu de monde, voire pas du tout, parce que le vélo est juste attaché par la roue avant, ce qui fait qu'il est quasiment pas attaché, et d'autre part la roue avant peut être abîmée parce qu'elle porte tout le poids du vélo en fait. Donc c'est vraiment, il y a à la fois peu de stationnement, c'est très manquant, c'est même assez marquant dans certaines places où il y a plein de stationnements voitures et parfois aucun stationnement vélo, et quand il y en a, ils sont on va dire pas tout à fait adaptés au vélo, malheureusement. Sur les doubles sens cyclables, c'est vrai que pour des DIY peut-être c'est pas suffisant. En particulier l'entrée de ville où, sur la RD 93, c'était une nationale, mais c'est une route départementale, où là, c'est un peu le vélo a un peu mal à faire sa place. Mais c'est vrai que des zones de rencontre, on n'en trouve pas partout, loin de là. Par exemple, Lyon, hein, grande ville par rapport à Die, on n'en a que trois. En surface, je ne suis même pas sûr que ça dépasse. En surface cumulée, je ne suis pas sûr que ça dépasse celle de Die. Donc voilà, après, Die est un centre-ville très ancien, et c'est vrai qu'on ne voit pas très bien ce qu'on peut faire d'autre qu'une zone de rencontre.
Oui, alors c'est vrai que peut-être que sur la question sur Die, c'est, voilà, vous avez peut-être constaté des choses, mais c'est vrai que on parle de Die et du Diwa, et c'est vrai que, par contre, effectivement, c'est très difficile de joindre Die. Je veux dire, c'est pas du tout sécurisé, il y a très peu, voire quasi pas, de pistes cyclables, en fait. Et Die, oui, mais bien sûr, mais c'est une ville de 4000 habitants. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui essayent, qui habitent à 5-6 km de Die, qui essayent de venir à Die à vélo, et ça, c'est un peu compliqué.
C'est évident que oui, le centre-bourg, le centre-ville de Die est peut-être assez perméable aux cyclistes, mais effectivement, les cyclistes n'ont pas vocation à vivre uniquement dans le centre-ville. On est bien d'accord. Ouais. Faut qu'ils puissent, rien ne serait-ce que d'aller à la gare pour aller plus loin en termes d'intermodalité, mais pas seulement. Il y a les entreprises qui sont tout le long à l'entrée de. C'est aussi des emplois. Et pour rien, il faut se confronter à la route départementale.
Florence, vous avez précisé que vous êtes venue en bus avec les vélos, donc vous avez eu la grande chance de pouvoir plier vos vélos, j'imagine. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des cyclistes ici. Parce que nous demandons au département depuis plusieurs années, surtout le collectif vélo, mais d'autres personnes, des racks à l'arrière des nombreux bus qui remplacent le train pour aller à Cray, à Eure, à Valence, les zones d'emploi. Et malheureusement, ça a l'air très compliqué. Enfin, en fait, c'est... On n'a toujours pas ce moyen de mettre le vélo dans le bus, sauf si par hasard le conducteur accepte, mais c'est tellement hypothétique qu'on ne peut pas se passer dessus.
Alors effectivement, Françoise, je rebondis sur cette anecdote. Nous sommes venus en vélo pliant. Nous avons effectivement pu mettre les deux vélos, les vélos pliants en soute. Le conducteur, très aimable et très réactif, nous a dit « Ah, ces vélos sont tout petits, ça va très très bien rentrer ». Et il nous indiquait qu'effectivement, l'accès aux grands vélos dans les soutes se faisait un petit peu au bon vouloir ou au cas par cas en fonction de la personne qui conduisait l'autocar. Peut-être pour relier à cette question d'intermodalité à des propos un peu plus généraux, le Conseil général de la Drôme, du coup, a pourtant inscrit des actions d'intermodalité dans le schéma directeur vélo qui date d'environ un an. Et il y a notamment cette question de l'intermodalité car plus vélo qui est clairement indiquée. Et du coup, dans la pratique, elle n'est pas encore réellement mise en place.
Et manque de bol, ou peut-être enfin coup de bol, les transports passent à la région.
Alors après, techniquement, parce que tu as dit tout à l'heure, c'est compliqué les racks, un vélo derrière. Il y a d'autres départements ou d'autres transporteurs qui le font très bien. Et, en particulier, bon, il y a le Finistère qui a 7 lignes qui prennent les vélos. Mais il y en a maintenant de plus en plus en fait, de départements qui font ça. La région a même installé 10 lignes pour ce qui est du sud de Drôme. Il y a un Montélimar-Nyons, par exemple, Nyons. Et puis il y en a d'autres, il y a Montélimar ou Benat, et ainsi de suite. Il y en a plus au nord. Il y a une dizaine de lignes, vous allez voir sur Carronalp, ces dix lignes de bus ont des racks à vélo. Il faut réserver quand même sa place 48 heures à l'avance, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais en même temps on a une garantie d'avoir une place pour son vélo. Donc c'est techniquement des choses qui existent, qui fonctionnent. C'est pas toujours facile, on est bien d'accord, mais et surtout quand on l'a jamais fait, par exemple pour les chauffeurs, pour l'entrepreneur, le transporteur, c'est nouveau. Mais il faut pousser ça parce que effectivement c'est possible ailleurs. Il n'y a aucune raison que dans la Drôme et partout dans France, on n'y arrive pas. Et c'est vrai que c'est un facteur de développement du vélo formidable.
Et d'allègement de la circulation routière.
Oui, bien sûr.
Sur l'intermodalité encore. Donc nous sommes arrivés en gare de Die. On a pu quand même observer la présence de box à vélo qui était remplie, donc qui était, je crois, de tête. Ce matin, nous avons croisé 5 vélos. Ce qui nous a peut-être interrogé pour le coup, c'est l'absence de signalétique qui précise à les non-cyclistes que cette possibilité existe, en tout cas en gare, qu'il y a la possibilité de stationner un vélo. Et ce qui nous a également posé question, c'est la présence des grands bus qui du coup se garent parfois juste devant les box et laissent très peu de place à la possibilité de sortir un vélo. Voilà. Donc parfois les infrastructures existent, mais les usages qui sont mis en place les rendent peu visibles ou peu attractives.
Disons qu'on a posé des box sans se poser de questions sur comment ils allaient être reçus, comment les personnes allaient les utiliser, et puis surtout les non-utilisants, c'est-à-dire les conducteurs de bus, allaient les appréhender. Et visiblement, ils ne les appréhendent pas vraiment, en fait. Ils font comme s'ils n'existaient pas.
Donc, quelque part, il y a peut-être aussi un souci de communication par rapport à tout ça, par rapport au vélo général, quoi. Aux choses qui sont faites pour...
Clairement, le vélo, très souvent... Dans nos rencontres, on voit beaucoup de monde autour du vélo, évidemment, et à la fois des collectivités, du grand public, des techniciens, toutes sortes de personnes, des élus. Et c'est vrai que ce qui ressort très souvent pour pas mal de gens, c'est que le vélo, ça va de soi. Ça va de soi. Et en fait, non, pas du tout. En fait, c'est plein de détails. Il suffit qu'on oublie un détail pour que la politique qu'on a menée, l'aménagement qu'on a réalisé ne fonctionne pas, ou peu, ou mal, ou pas vraiment. Et donc, la communication en fait partie. Par exemple, le double sens cyclable ou la zone de rencontre. Je sais pas, j'ai vu, moi, sur le site de la ville de Die, qu'il y avait un petit topo sur la zone de rencontre. C'est bien, hein, c'est déjà ça. Ça explique pas forcément super bien ce que c'est, mais c'est déjà ça. Est-ce que, par exemple, dans les boîtes aux lettres des habitants, il y a eu un petit flyer, un petit track qui explique exactement, on met en place une zone de rencontre, des doubles sens cyclables, voilà, qu'est-ce qui va être nouveau et comment ça va fonctionner dorénavant? Est-ce qu'on l'a fait?
Non.
Voilà.
Non, et du reste, il y a des personnes âgées dans la rue qui se plaignent un peu de ça.
Ouais.
Enfin, qui se plaignent plus des voitures que des vélos, mais parfois, c'est un peu comme à Lyon, hein,
oui.
Compétition pour l'usage du mètre carré de bitume entre le piéton, ces malheureux poteaux verts plantés devant plein de commerces qui gênent tout le monde, qui gênent les poussettes et les voitures.
Oui.
Et le piéton a de la peine et parfois a peur de se faire doubler par un vélo à toute allure. Enfin.
Mais il me semble qu'une zone de rencontre prend aussi... ça concerne les vélos et aussi les piétons, non?
Oui.
Il me semble que ça met les deux en valeur, entre guillemets, quoi. C'est censé, ils sont censés être au même titre valorisés.
On va peut-être rappeler qu'effectivement, une zone de rencontre, c'est une zone qui intègre à la fois la question du piéton ou de la piétonne, la question des personnes pratiquant le vélo et également la question des véhicules motorisés. Dans une zone de rencontre, la vitesse maximale prescrite, c'est le 20 km/h. Et l'usager qui est prioritaire, c'est l'usager le plus vulnérable, donc c'est le piéton. Exception faite dans le cas où il y a des tramways, où là le tramway est prioritaire par rapport aux piétons et à la piétonne. Dans le cas des rues en zone de rencontre que nous avons vues, effectivement ce sont les piétons et les piétonnes qui restent prioritaires par rapport aux cyclistes et aux automobilistes. Mais ça on ne le sait pas toujours tant que ce n'est pas expliqué de manière claire.
Non, alors, on peut marcher au milieu de la rue.
Voilà, exactement. On peut marcher au milieu de la rue quand on est piéton, il n'y a aucun souci, il n'y a pas besoin de se pousser parce qu'il y a une voiture. Alors vous pouvez être sympa pour l'automobiliste et vous pousser parce que vous pouvez imaginer qu'il va aller un peu plus vite que vous. Mais lui n'a pas le droit de râler derrière si vous êtes au milieu de la rue. Par contre, la seule chose qu'un piéton ne doit pas faire, c'est se stationner au milieu de la rue. Voilà, c'est empêcher le passage, par exemple. En stationnant ou en discutant, pour discuter, on se met un peu sur le bord. Voilà, c'est ça. L'autre règle, ben, c'est le double sens cyclable qui est généralisé. C'est-à-dire que, sauf exception, il peut y en avoir. Et c'est le cas dit d'ailleurs, d'après les panneaux, quelques endroits où il n'y a pas de double sens cyclable, enfin, ou alors il manque des panneaux, hein, mais bon, je ne sais pas, on verra ça plus tard. La zone de rencontre généralise le double sens cyclable. Donc en fait, l'idée c'est que quand on rentre dans une zone de rencontre, on a les mêmes règles dans toute la zone. Un, piéton prioritaire, il marche où il veut. Et deux, le cycliste va dans tous les sens, même si c'est interdit pour les voitures. Les cyclistes, c'est à peu près ça qu'il faut retenir. Et surtout, c'est 20 km/h maximal, donc il faut vraiment, vraiment être apaisé. On peut presque le considérer comme une rue piétonne ou une aire piétonne ouverte aux véhicules qui sont très tranquilles. Voilà.
À condition que ces véhicules restent très tranquilles.
Tout à fait. Alors, on a croisé par exemple un scooter qui est visiblement, je crois qu'au lycée, ils n'ont pas dû avoir de, au lycée de Dide, ils n'ont pas dû avoir de sensibilisation à la zone de rencontre parce qu'il allait assez vite dans cette zone de rencontre. Et à mon avis, il dépassait les 20 km/h.
Peut-être que ce qu'il est intéressant de préciser, c'est qu'au niveau architectural ou au niveau en termes d'urbanisme, on différencie assez rapidement une zone de rencontre d'une rue classique par l'absence de trottoir. L'idée de la zone de rencontre, c'est que tout le monde se rencontre et donc on met tout le monde à la même hauteur. D'où visuellement, quand on coupe une rue qui est en zone de rencontre, l'absence de bordure et de trottoir sur les bas-côtés.
Alors qu'est-ce que vous pensez de ces piquets verts?
Le potelé et la France. Je pense qu'on pourrait dédier une émission entière sur l'utilisation des potelés dans les centres-bourgs.
Un joli petit mot pour un truc assez moche.
Un potelé, ouais. Tout à fait. Alors, l'idée du potelé, pour moi, c'est l'idée d'apaiser les villes, les centres-bourgs ou les zones denses et de s'apercevoir que dans la pratique, ça ne marche pas toujours. Alors, pour contraindre les usages, on rajoute de l'obstacle par rapport à l'automobile. Donc, on rajoute des potelés. En termes d'esthétique, je pense que quand il y en a trop, ça on les dit clairement, les centres-bourgs, les centres urbains et les zones denses. En termes d'usage, je dirais qu'on n'a pas encore trouvé de solution idéale permettant de s'en passer complètement en France. Frédéric, tu as peut-être une vision complémentaire à la mienne.
Oui, alors bon, les potelets quand même, ils ont débarqué dans les années 80, fin des années 80, essentiellement pour combattre le stationnement au départ. Il n'y avait pas de zone de rencontre et les zones 30 sont arrivées en 92, donc ils sont même antérieurs à tout ça. Et c'était d'abord pour empêcher le stationnement sauvage sur les trottoirs. Pourquoi on empêche le stationnement sauvage sur les trottoirs? Parce qu'en fait, visiblement, les collectivités, est-ce qu'elles ont assez de courage pour verbaliser régulièrement les voitures garées sur les trottoirs? Non. Alors, en fait, plutôt que de se mettre à dos la population avec des tas de verbalisations, eh ben on met des potelets. Comme ça, on se met à dos pendant quelques temps, parce que les potelets ont été installés, les gens râlent, mais bon, à un moment donné, ça s'arrête et on va se garer ailleurs. Effectivement, ça a été un peu ça. Et effectivement, il y a... La France, c'est dans la mesure où le code de la route, et on le voit à peu près tout le temps, même de la part des cyclistes d'ailleurs, est assez peu respecté, en particulier sur le stationnement. Voilà, c'est une manière de réguler la difficulté à faire respecter le code de la route en France. Voilà, comme les radars l'ont été, en fait. il y a tout à fait moyen pour les forces de police d'arrêter une voiture parce qu'elle roule trop vite, au jugé, hein, c'est possible au jugé. Mais on a mis des radars parce que c'est la machine qui fait, on se débarrasse de la machine. Là, on a mis des potelets parce que le potelet, c'est une machine. Et du coup, on oublie la pédagogie, on oublie la communication, on oublie tout ça. On se retranche derrière. C'est vrai que c'est un vaste débat, ça traverse beaucoup plus, ça va bien au-delà du code de la route. Hein. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème parce que tout à l'heure, on parlait des zones de rencontre qui sont à plat, hein, il n'y a plus de trottoir. C'est super aussi pour les personnes en fauteuil. Alors les personnes en fauteuil, elles voient bien les potelets, c'est pas toujours facile de tourner autour. Par contre, les aveugles, eux, les voient pas les potelets. Ils ont beaucoup de mal à les détecter avec les cannes. C'est un vrai problème pour eux et c'est un problème où ils se blessent. Hein. Donc du coup, quand on veut protéger des trottoirs, c'est vrai qu'on en exclut aussi d'autres populations, clairement les aveugles.
Sur la question du potelet, il y a également un autre aspect, c'est celui de l'esthétique. Je me rappelle d'une initiative qui avait été présentée par une association britannique, Sustran, qui consistait à se dire effectivement les abaissements de vitesse mis en place dans les centres-bourgs et dans les centres-villes ne sont pas toujours appliqués, respectés. Pourquoi ne pas remplacer les potelets par des bacs de fleurs. Et je me rappelle de grands bacs de géranium qui étaient présentés sur des très jolies maquettes qui non seulement donnaient un côté un petit peu plus esthétique et plus humain au centre-bourg, et ces grandes jardinières de fleurs, en fin de compte, finissaient par être entretenues par les habitants eux-mêmes et y donnaient lieu à la fois à des pratiques en termes d'espace public, de rencontres, que les potelets ne permettent pas de créer, parce qu'ils sont quand même globalement plutôt moches.
Mais dites-moi, vous êtes intarissable sur les potelets. Je sens, hein, je sens qu'on pourrait faire une émission, on dit pense. Les potelets, oui. Et vous deux. Aurélie, tu voulais poser une question?
Non, peut-être revenir sur l'activité du vélo sur le Diwa, quoi. Préciser quand même qu'il y a des associations qui essayent d'en faire la promotion et de sensibiliser le public justement à la pratique du vélo. Donc avec un collectif vélo qui est présent.
Grâce auquel on a eu ce contresens cyclable.
Mmh. Oui, voilà, qui fait pression avec... qui ont plein de projets, notamment par rapport à des vélobus, par exemple, à la sortie des écoles. Peut-être imaginer une maison du vélo. C'est vrai, c'est surtout le club cycliste et la Dromoise, en fait, qui ont un projet peut-être de mettre en place une maison du vélo sur le Diwa. Voilà, donc à cette occasion, donc, je rappelle que demain, on sera présent sur le marché, en fait, avec Frédéric, avec...
France,
Françoise et moi, pour sensibiliser les vacanciers et puis les Diwa aux vacances, à préparer ses vacances à vélo. Donc on sera présent sur le marché, il y aura une petite exposition qui sera au Café Andarta et où on présentera des circuits.
Des cartes. Ouais, et des justement, cartes. J'en profite pour parler de la carte, la fameuse carte que malheureusement tout le monde ne connaît pas encore, c'est une carte IGN.
Oui.
Qui est sorti exactement il y a un an, en juin 2015. Tu as beaucoup travaillé dessus.
Mais j'étais le coordonnateur de cette carte.
Voilà, je veux juste dire un mot avant que tu passes la parole. C'est une carte qui est géniale parce que c'est une carte de la France et on a les voies vélo qui sont représentées ainsi que l'allié naturel du vélo, le train, donc les gares en activité. Mmh. C'est une carte très pratique qu'on trouve dans tous les marchand de cartes.
Elle est diffusée par le réseau IGN, donc effectivement on la trouve à peu près partout. C'est la numéro 924, elle a une couverture verte. Elle s'appelle Voie verte et Véloroute de France. Et donc du coup, il y a à peu près une vingtaine de milliers de kilomètres qui sont représentés sur cette carte de France. C'est 20 000 kilomètres de véloroute, donc des itinéraires cyclables de moyenne, grande distance. Qu'est-ce qu'une véloroute quand même? Il faut un peu le préciser. L'idée, c'est que c'est un itinéraire cyclable accessible à tous. Donc il faut retenir, et sans trop aller dans les détails, que c'est sécurisé. Donc on peut y aller avec des enfants ou des gens qui sont peu aguerris, qui font du vélo pour la première fois, par exemple. C'est aussi un minimum de pente. On essaye de ne pas dépasser 3% de pente. 3% de pente, c'est, on va dire que ça commence à monter, mais on considère que c'est jouable pour pas mal de gens, pour la presque totalité. C'est très loin des cols du Tour de France ou même des cols qui entourent Die. Troisième aspect, le revêtement, quelque chose de roulant, on n'est pas sur du VTT. On n'est pas forcément non plus sur de la route, hein. Ça peut être du chemin de halage par exemple ou de l'ancienne voie ferrée sur lequel il y a un revêtement en terre mais qui est roulant, qui n'est pas un champ de pommes de terre. On peut rouler sans problème. Voilà, c'est ça une véloroute. Après, il y a effectivement plein de variantes, mais globalement c'est ça. Il y en a à peu près 20 000 km sur la carte. Alors tous ne sont pas réalisés, mais disons que sur cette carte, il y a un renvoi. On a des petits numéros, ça permet de renvoyer sur un site internet, le site de l'AF3V, af3v.org. Association française de développement des véloroutes et voies vertes. Et où là, on a des informations plus précises sur chacun des tronçons. Et l'autre aspect, effectivement, le croisement avec l'information ferroviaire sur cette carte, il était important parce que c'est la première fois qu'en France, on publiait, en 2016, hein, on publiait une carte de France. Enfin, je pense qu'il y a une centaine d'années, il devait y avoir des cartes de France avec des voies ferrées puisqu'il n'y avait que ça. Mais depuis très très longtemps, il n'y avait pas eu de carte de France avec les lignes ouvertes et surtout les gares ouvertes au trafic ferroviaire. Et on a à peu près 3000 et quelques, je me souviens plus parce qu'on les a toutes vérifiées, donc c'est un boulot de titan. Et voilà, et c'est vrai que de croiser les itinéraires vélo plus le train, c'est un formidable outil de mobilité. Alors pas évidemment d'abord loisirs, tourisme, hein, mais pas que, hein. Ça peut servir aussi sur des petits tronçons, se rendre compte que bah, là, effectivement, à tel endroit, on peut faire du vélo sans problème. Et que dans d'autres endroits de France, c'est un peu plus difficile parce qu'il n'y a soit pas d'itinéraire ou peu, ou ils sont encore en projet.
Et voilà. Par exemple, par chez nous,
voilà.
Alors, par chez vous, quel est le rayon de chez vous?
Mettons déjà le département.
Alors, sur le département, il y a un grand axe qui doit être assez connu de Die, mais qui ne concerne pas Die, qui est la Via Rhôna, qui est l'itinéraire le long du Rhône. Le département de la Drôme a mis un peu de temps à prendre la maîtrise d'ouvrage. Hein, le projet d'itinéraire existe depuis très longtemps. Et en fait, la Drôme a commencé à prendre la maîtrise d'ouvrage en 2004, de mémoire. Et là, à partir de ce moment-là, il est allé quand même assez vite. Et c'est un des départements concernés par la Via Rhôna qui a le mieux travaillé, honnêtement. Vraiment, en termes de qualité d'itinéraire, de signalisation, d'équipement sur les, on va dire, le long de l'itinéraire. Alors, le bémol, c'est que comme l'itinéraire passe régulièrement en Ardèche, puis en Drôme, puis en Ardèche, la Drôme a fait ses itinéraires et l'Ardèche a pris un peu de retard. Mais c'est quasiment tout fait côté Ardèche maintenant. Donc, on a globalement du sud de Lyon, Givors, jusqu'à Pont-Saint-Esprit, tout au sud de l'Ardèche. Enfin, c'est même dans le Gard, Pont-Saint-Esprit, au nord du Gard, on va dire, on a un itinéraire qui est quasi continu, enfin qui est même continu, balisé, qui traverse, du coup, il commence dans le Rhône, il passe dans la Loire, il passe dans l'Isère, puis ensuite la Drôme, puis l'Ardèche, puis la Drôme, puis l'Ardèche, puis la Drôme, puis bon, bref. Et on arrive dans le Gard et on a 200 km comme ça de continu, ce qui est pas mal, ce qui est un formidable appel et ce qui permet aux collectivités qui sont pas très loin de se dire « Ah ouais, ça marche, ça fonctionne, c'est pas mal ». Moi aussi, je pourrais. Et c'est vrai que peut-être qu'à Die, on est encore un peu loin de cet itinéraire pour que ça percole. La Drôme, le conseil départemental a fait aussi un autre itinéraire le long de l'Isère, dans la Drôme, hein, les 42 km entre Châteauneuf-sur-Isère, à la confluence du Rhône, et puis Saint-Nazaire-en-Royans. De moins bonne qualité, moi, à mon sens, mais bon, c'est bien aussi. Et le conseil départemental de l'Isère a quand même un plan pour faire... justement des itinéraires transversaux à travers la Drôme, le long de ces rivières qui coulent vers le Rhône, et en particulier le long de la Drôme, qui est quand même la rivière qui donne le nom à son département, et puis qui fait 130 km quand même, et qui en plus a un profil qui n'est pas très exigeant, sauf sur la fin, après Val-Drôme, où là ça monte vraiment, mais honnêtement, jusqu'à Val-Drôme, on fait plus de 100 km pour monter 600 mètres. Donc le dénivelé est assez faible. Il y a des ressources en dehors de la RD 93 qui permettraient de faire un itinéraire sans trop de difficultés. Je ne dis pas qu'il n'y en a aucune. Hein. On est bien d'accord que ce n'est pas si simple de faire un itinéraire sécurisé, de qualité, sans trop de pentes. Agréable aussi, hein. Il faut que ça soit agréable. Voilà.
Je t'interromps. Qu'est-ce que c'est pour toi un itinéraire sécurisé?
Alors un itinéraire sécurisé, c'est quand vous pouvez laisser vos enfants aller devant vous. Vous ne les voyez plus. Mais moi, pour moi, c'est ça. Quand quelqu'un me demande, je dis, bah, vos enfants, vous les envoyez tout seuls, là, sur cet itinéraire? S'ils me répondent non, ben, c'est que, alors, ça n'est pas sécurisé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, pour moi, un enfant, c'est, on va pas dire 4 ans, hein, on va dire 8 ans, hein, c'est bien. 8 ans. Après, évidemment, tout est relatif. Hein. On peut vouloir plus. On peut se dire, bon, sur 500 mètres, on va accepter que 500 mètres, c'est un peu plus compliqué. Mais globalement, pour moi, un itinéraire sécurisé, c'est qu'on laisse un enfant rouler sans trop de... Alors qu'il a appris quand même les rudiments du code, hein, quand même. Il se met à droite quand il rencontre une voiture, enfin, des choses comme ça. Mais voilà, ça veut dire qu'en face, le trafic voiture, si on croise du trafic voiture, bah, il est faible. Les vitesses sont peu élevées. En tout cas, ce n'est pas la RD 93.
Ce ne sont pas les bandes multifonctionnelles que l'on a actuellement, un coup de peinture, hein ?
Pour moi, ce n'est pas la même, c'est pas du tout la même clientèle, entre guillemets, la même pratique. Et le vélo, encore une fois, là, c'est pareil, ça reboucle avec l'idée que le vélo, c'est simple. En fait, le vélo, ça recouvre beaucoup, beaucoup de pratiques. Des pratiques utilitaires avec des gens qui commencent ou des gens qui en font ça depuis 20 ans. Des pratiques de loisirs, mais là, pareil, avec des enfants et des gens qui débutent et qui débutent à 60 ans. Hein, ils peuvent tout à fait, ils ont le droit de débuter à 60 ans. Et puis des gens qui enfilent 100 km tous les week-ends avec 2-3 cols et qui, effectivement, moi par exemple, j'ai pas besoin de bande de. Je n'ai même pas de bande. Je suis tout à fait à l'aise sur n'importe quelle route.
Mais, Frédéric Severo.
Hein, non, mais c'est pour dire qu'effectivement, il faut toujours se placer, jamais. Faut toujours se mettre dans la position de celui qui ne fait pas de vélo. Et souvent, les cyclistes, le problème des cyclistes, parfois, ils ont de la peine. Ils regardent, et c'est normal, leur propre lorgnette de cycliste. Et effectivement, moi, si je me regarde avec ma propre lorgnette de cycliste, je n'ai pas forcément besoin de tout un tas d'aménagements. Mais il faut toujours penser que si on veut développer le vélo, et pour qu'on veut le développer, pour faire du report modal, pour éviter qu'il y ait moins de voitures, pour éviter que la voiture se développe, pour avoir moins de pollution, moins de bruit, plus de confort, un meilleur cadre de vie.
Plus de santé.
Plus de santé aussi. Tout ça, ça veut dire que les gens aujourd'hui qui ne font pas de vélo, on a envie qu'ils s'y mettent. Il faut se mettre à leur place. Il faut que les aménagements cyclables leur donnent envie de s'y mettre. Les bandes multifonctionnelles le long des départementales ne donnent pas forcément envie de faire du vélo.
Les bandes multifonctionnelles, c'est ce qu'on peut trouver par exemple de Diassaillant.
Par exemple.
Très bien. D'accord.
Ce n'est pas totalement inutile pour une certaine catégorie de cyclistes, mais une petite catégorie de cyclistes qui n'est pas très nombreux.
Donc vous voyez, nous on piaffe un peu parce qu'on le sait, hein, que ce sont les infrastructures cyclistes qui vont développer l'usage du vélo et on les attend encore. Donc en termes de circulation, eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir dans le département? On se demande, il y a des travaux sans arrêt, il y a des ronds-points, il y a des bouts de route qui sont refaits, mais on attend toujours cette arlésienne, rien pour le vélo. Non, mais par contre on va avoir d'ici peu, on va avoir des pompes pour recharger les voitures électriques, oui. Des pompes, enfin, des stations. Voilà, un très gros investissement par un syndicat de l'énergie, mais toujours rien pour le vélo. Alors là, quand même, rien a dit. Effectivement, on aura peut-être quelque chose prochainement, hein, entre la Porte Saint-Pierre, donc le collège, et puis Jaillance.
Ce qui est déjà pas mal, parce que pour aller à l'auto-école, par exemple, ou pour aller à la gare ou autre, c'est pas toujours facile.
Pour aller à Intermarché, au HLM.
Ça, c'est peut-être aussi un problème de circulation aussi de voitures, le fait qu'il y ait beaucoup trop de voitures à certains endroits, ou qu'elles aient le droit de rouler un petit peu de partout aussi. Enfin, je pense surtout au centre-ville de Die, quand je dis ça. Vous parlez de zones de rencontre, vous dites que les vélos peuvent aller dans les deux sens, mais... dans un certain sens, moi je ne le ferai pas avec mon vélo dans certaines rues de Die parce que j'aurais peur un petit peu quand même, j'aurais peur des voitures.
C'est pour ça que la communication, la sensibilisation est super importante et pour tout le monde en fait. Parce que par exemple, le double sens cyclable, ce qu'on appelle parfois contresens, on se rend compte que depuis leur mise en place, donc leur généralisation dans les zones 30, ça date de 2008. Alors, quelques écueils, hein, ça n'a pas été tout très très simple hein, dans plein de villes, mais bon, peu importe. Ça se développe, et ça se développe de plus en plus. On relève depuis maintenant donc, 8 ans hein, que ça se développe, très très peu d'accidents. Pourquoi ? Parce que le cycliste voit la voiture arriver, et qu'en fait, il y a un regard qui peut être capté, et si ce n'est pas le regard, en tout cas, l'objet est capté. Et donc, c'est la meilleure confrontation que peut avoir le cycliste, c'est d'avoir la voiture en face. Quand on relève les accidents, hein, en urbain, c'est les intersections qui posent problème. Donc, ce n'est pas le double sens. Alors, double sens, dans une intersection peut poser problème, et en fait c'est l'intersection, c'est pas le double sens qui pose problème. Et sur, sur des grandes routes, ben, en fait l'accident le plus probable c'est d'être pris par l'arrière, hein, et pas, et c'est pas parce qu'on croise la voiture, c'est parce qu'elle nous ramasse par derrière, elle nous a pas... Donc du coup, le double sens dans tous les cas de figure est bien plus sécurisant, contrairement à l'impression qu'effectivement il peut donner. Les gens qui font pas de vélo par exemple nous disent, oh mais c'est très très dangereux, il suffit de le présenter. Je dis pas que c'est... Quand on voit une voiture arriver à beaucoup plus qu'à 20 km/h dans une zone de rencontre avec un moteur qui ronfle, oui, ça peut faire un peu peur, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que statistiquement, on se rend compte que les risques sont extrêmement faibles. Voilà.
Très bien.
Quel conseil donnerais-tu à un habitant qui, que ça démange de prendre son vélo pour aller faire ses courses, mais qui justement hésite un peu, par exemple, des conseils pratiques, je ne sais pas moi, à la tombée de la nuit Il me semble que c'est important qu'il se fasse voir, qu'il est, ou qu'il est clair ou qu'il soit éclairé. Enfin.
Il y a plein de conseils de différentes sortes. Après, tout dépend de la crainte qu'il a. La crainte d'être... effectivement, je pense que la première crainte, c'est les voitures, en fait. Et donc, c'est peut-être gérer, peut-être commencer par faire des détours pour arriver à son point. Parce qu'effectivement, prendre la RD 93, là, la grande route... elle est assez étroite, il y a du trafic, il y a même des camions et des bus. Nous, ce qu'on en a vu en venant, c'est pas très accueillant pour les cyclistes, on est bien d'accord. Il y a des petites rues derrière, peut-être qu'il faut contourner le problème au début pour se, voilà, et petit à petit on la prend sur 100 mètres, 200 mètres, puis un jour on se lance, c'est un peu comme la piscine, hein. On importe et c'est normal, et puis petit à petit, et puis aussi demander conseil à d'autres gens qui sont... Alors, ne demandons pas conseil à des têtes brûlées, on est bien d'accord, mais à des gens pour lesquels vous êtes proches, par exemple à des assos aussi, hein, on parlait des associations, elles sont là aussi pour conseiller les cyclistes, justement les apprentis cyclistes.
On a l'habitude de dire que la ville, elle a été pensée plutôt pour les automobilistes, et c'est vrai que de changer d'habitude, de se dire, bon, aujourd'hui, je vais tester le vélo, mais... par où je passe, en discutant avec une voisine ou un voisin ou un cycliste qui a l'habitude de prendre son deux roues, on voit la ville différemment, ou on voit le centre-bourg différemment. Ah tiens, toi tu passes par là, par la petite rue pour aller à la cathédrale. Ah c'est vrai que ben, tiens, je pourrais essayer ce chemin-là. Donc moi le conseil que je donnerais c'est essayer le vélo et essayer différents chemins en fait. Voilà.
Ça peut être aussi d'essayer par exemple le dimanche où il y a moins de trafic, ou je connais pas très bien dit, c'est peut-être pas le dimanche qu'il y a le moins de trafic, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est peut-être essayer à des horaires décalés, se dire ça, et en tout cas c'est essayer. L'échec c'est de pas essayer en fait, et effectivement on se rend compte, enfin il y a une peur initiale, il y a une peur qui peut exister, en particulier des gens qui ont désappris à faire du vélo, qui ont pu apprendre quand les personnes étaient petites, et puis bon, la vie a fait que, bon, elles n'en ont plus fait pour X raisons. Et c'est vrai qu'on n'oublie pas le vélo, mais on oublie l'assurance du vélo. Et c'est vrai qu'on peut avoir très très peur, ou en tout cas être craintif. Ben, faut essayer ben, par petits bouts, 500 mètres, 1 km. Et puis on rallonge progressivement, faut être très progressif, très modeste. Et ça marche parce que quand même, on a dressé un portrait des automobilistes épouvantable, mais il y en a quand même beaucoup qui font attention aux cyclistes, qui s'écartent, c'est la loi d'ailleurs, hein, 1 mètre en ville, 1 mètre 50 hors ville, pour dépasser un cycliste, et qui font attention, il y en a plein quand même d'Andy qui ne nous ont pas doublés, qui sont restés sagement derrière nous. Bon voilà, donc du coup ils sont pas tous, c'est vrai que ça arrive, il y en a quelques-uns qui sont pas très cordiaux, mais bon...
Moi, je crois que j'aimerais compléter une phrase, Françoise, qui a été prononcée tout à l'heure à propos des infrastructures. Donc, les infrastructures créeraient les usages. Alors, oui, je suis à 200% d'accord, mais je pense qu'il y a aussi la communication qui permet de faire émerger des nouveaux usages et qui permet aussi de dire que le vélo, c'est possible. Et la communication, moi, je la vois... entre les différents services, les différents échelons qui travaillent sur la question du vélo, entre le conseil général, la mairie, les collectifs et les associations de cyclistes, pour faire une vraie politique cyclable, une bonne politique cyclable qui est pratico-pratique, qui marche, qui donne envie et qui est basée sur les besoins du cycliste, bah, il faut que toutes ces personnes-là, toutes ces structures-là, elles se parlent de temps en temps. Sinon, chacun prend l'habitude de travailler de son côté. Il n'y a pas de concertation vraiment, vraiment efficace. Ça, c'est un premier point sur la communication. Je me dis aussi comme une communication sur le vélo qui est efficace, c'est une communication à destination du grand public qui dit que le vélo, c'est pas dangereux, c'est pas cher et c'est accessible à toutes et tous. Alors moi, je suis originaire du Sud-Ouest, ça s'entend peut-être avec mon petit accent méridional. Je me rappelle en 2008 d'une communication grand public qui avait été impulsée par la mairie de Toulouse à l'époque. C'était une jeune cycliste sur son vélo qui pédalait tranquillement avec un petit air très, très insouciant et qui donnait envie de rouler. Et on voyait à côté de cette cycliste un slogan rapide, simple et efficace. Le vélo, c'est 0 € à la pompe. Et typiquement, des slogans comme ça qui renvoient une image du vélo comme un vrai moyen de transport économique, simple et accessible à tous, pour moi, c'est 10 000 fois plus efficace que des slogans de santé publique qui mettent en avant la dangerosité du vélo. Et pour moi, une bonne communication, c'est ça aussi. Et puis, je crois que je finirai aussi en disant peut-être qu'une communication... bien pensé, c'est une communication qui va rassurer à la fois les personnes âgées, les commerçants aussi qui pensent que piétonniser une ville ou mettre des doubles sens cyclables dans une ville, c'est faire chuter le chiffre d'affaires pour les commerces locaux. Et là, en fait, non, pas du tout. Toutes les études de l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise d'énergie, montre qu'une ville qu'on a rendue plus accessible aux cyclistes, aux piétonnes et aux piétons, eh bien c'est une ville où les commerçants et les commerçantes s'y retrouvent en termes de chiffre d'affaires et en termes de fréquentation des commerces locaux. Donc voilà, moi la communication, je pense qu'elle est complémentaire aux infrastructures, elle doit venir appuyer la création de bons aménagements cyclables et d'aménagements cyclables sécurisés.
Pour finir, est-ce que vous pouvez tous les deux, Florence et Frédéric, nous donner des idées de circuits vélo pour les vacances ? Alors, sortons de la Drôme, puisqu'il y a quand même peu de choses, il n'y a rien dans notre vallée. Mais sortons même de Rhône-Alpes, où pouvons-nous aller ? Hein, alors, voilà, une petite famille. Alors,
quand les gens me demandent, ils ont souvent envie d'aller au sud. Alors, les gens qui me demandent, ils sont à Lyon ou parfois plus au nord. Vous êtes déjà dans le sud, alors je conseillerais un peu de nord. Pourquoi ? Parce que c'est pas trop trop loin. Aussi parce que le train plus vélo pour accéder à toutes les pistes de l'ouest de la France devient de plus en plus difficile. Il y a plein. On pourrait conseiller des tas d'itinéraires dans l'ouest de la France, sur la bordure atlantique. Sauf que le train plus vélo a considérablement baissé depuis Rhône-Alpes. Il y avait des Lyon, Nantes, Lyon, Quimper direct qui prenaient les vélos, qui n'existent plus, des Lyon, Hendaye, bon, je passe. Je passe, c'est regrettable hein, néanmoins, mais je, voilà. Et aujourd'hui, j'aurais tendance à vous conseiller un itinéraire qui est vraiment pas mal, qui change et sur lequel on ne pense pas forcément quand on s'intéresse aux itinéraires. C'est une partie de l'Eurovélo 6, le long du Doubs ou du canal du Rhône-Rhin, on va dire de Dole. Alors on peut partir de Chalon-sur-Saône aussi, hein, mais Dole, pourquoi ? Parce que c'est une très jolie ville, avec plein de vieux monuments au bord du Doubs. Et puis on remonte Besançon, qui est une ville magnifique, Montbéliard, Mulhouse, et on peut arriver jusqu'à Bâle. Bâle, qui est une ville suisse, à la frontière avec l'Allemagne et la France, et qui est aussi magnifique. Et là, vous faites, et vous pouvez vous arrêter, revenir sur votre chemin assez facilement, parce qu'il y a une ligne de train tout le long, et ce train-là, contrairement à d'autres, peut-être... prend les vélos et donc du coup vous pouvez revenir à votre point de départ sans problème. Donc s'il pleut par exemple, voilà, vous n'avez peut-être pas envie ou si vous êtes fatigué, il n'y a aucun souci. Et c'est un itinéraire assez méconnu, on parle souvent de la Loire à vélo, on parle de la Vélodyssée, enfin j'en passe. Hein. Celui-là, cette partie d'Eurovélo 6 qui est un itinéraire beaucoup plus grand hein, qui relie l'Atlantique à la mer Noire, cette partie d'Eurovélo 6 est en plus très très jolie. On voit le Doubs qui est une rivière assez nonchalante, assez... Je ne vais pas dire sauvage comme la Drôme, hein. La Drôme est vraiment une belle rivière, et c'est pas le même style, mais c'est assez beau quand même. Voilà.
Peut-être pour compléter, Frédéric, ta proposition d'itinéraire, je rajouterais qu'en Rhône-Alpes, il y a une carte, une tarification spécifique qui est très intéressante pour les cyclistes à vélo. C'est la carte donc Illico Liberté qui permet de faire du train le week-end à 50% avec 3 accompagnants qui bénéficient du même tarif. Et cette carte permet notamment de rejoindre certaines villes de Bourgogne, parce que la tarification va un petit peu au-delà de Rhône-Alpes. Et moi, je resterai sur la région de la Bourgogne, qui propose des voies vertes plates et des circuits assez intéressants pour les familles.
Le long des canaux.
Le long des canaux et puis entre Mâcon et Châlons. Donc on cite souvent la voie verte Vivry-Cluny qui est vraiment accessible.
La Rolls-Royce, une des premières.
Voilà.
Une des premières, oui.
Bah moi j'aimerais bien terminer sur le challenge mobilité. Qu'est-ce que vous en pensez de ce fameux challenge ?
Bah, le challenge mobilité, c'est une fois par an, c'est bientôt, dans quelques jours, donc en Rhône-Alpes.
Le 9 juin, il me semble.
Le 9 juin. Et le challenge, c'est l'occasion de se dire, ben tiens, pourquoi aujourd'hui je n'essaierai pas de changer de mode de transport ? Vélo plus trottinette, train plus trottinette, vélo plus covoiturage, voilà. Pourquoi pas moi ? Je pense qu'après, ce qui est intéressant avec le challenge mobilité, c'est de se dire ben, pourquoi est-ce que je ne testerai pas ce que j'ai testé le 9 juin, un autre jour dans l'année ?
Alors, pour être tout à fait franc, on avait lancé un challenge vélo en 2007, il y a quasiment 10 ans à Lyon. Et effectivement, l'idée a fonctionné pendant 4 ans avant que la région Rhône-Alpes, à l'époque, en 2010-2011, reprenne l'idée et la fusionne avec d'autres challenges covoiturage du Grand Lyon et d'autres comme ça, et donc ça devient un challenge multimode. Alors il y a un côté régional qui est très positif, un côté multimode qui permet aussi... Ce que je trouve dommage, c'est que justement on est perdu pour chacun des modes, et en particulier les vélos, qui est quand même un mode bien particulier, qui permet énormément d'autonomie, qui est très peu cher. Bon, on va pas citer tous les avantages, mais je trouve ça un peu dommage que depuis ces années-là, du coup, on ait un peu perdu de l'originalité du discours sur le vélo et que ça soit noyé dans tout un tas de... Parce que dans ce challenge, il y a aussi la voiture électrique, j'ai rien contre, mais du coup, c'est pas tout à fait les mêmes gains en matière de report modal, en matière d'énergie, en matière de changement de comportement. Et c'est vrai que le vélo apporte en lui beaucoup plus de changements que plein d'autres modes, et parce qu'effectivement il est très transversal, il joue sur plein d'aspects, on l'a cité, la santé, la pollution, enfin bon, vraiment plein d'aspects, et c'est un peu le regret que j'ai maintenant, et c'est vrai qu'il faudrait en faire plus souvent, et peut-être un challenge vélo particulier, peut-être en septembre, où les gens se remettent après les vacances, choisir son bon moyen de déplacement pour l'année qui vient. Au mois de septembre, challenge vélo a dit.
Très bien, on lance l'idée. Ben, merci à vous.
Au revoir.